Chapitre 19. La mère de Kurt avait une élégance froide, une chevelure brillante, un teint parfaitement préservé. Ses vêtements étaient de bon goût et coûteux, choisis pour paraître de bon goût et coûteux. Elle semblait faire partie de ces personnes riches qui laissent de maigres pourboires. Kurt l'appelait mère, avec une certaine solennité, un soupçon d'archaïsme. Le dimanche, il prenait un brunch avec elle. Ifemelu appréciait le rituel dominical de ses repas qui avait lieu dans la salle à manger au décor chargé de l'hôtel, empli de gens élégants, de couples aux cheveux argentés, accompagnés de leurs petits-enfants, de femmes d'un certain âge avec des broches épinglées au revers de leur veste. Le seul autre noir était un serveur en uniforme. Elle mangeait des œufs mimosa, de minces tranches de saumon, des parts de melon, observant Kurt et sa mère, tous deux d'un blond éblouissant. Kurt parlait et sa mère écoutait, captivée. Elle adorait son fils. L'enfant né sur le tard, quand elle n'était plus sûre de pouvoir encore en avoir, le charmeur auquel elle cédait toujours. Il était son aventurier qui ramenait des femmes d'origine exotique, une japonaise, une vénézuélienne, mais il finirait avec le temps par se ranger. Elle tolérait toute personne qui plaisait à Kurt, sans se sentir obligée de lui montrer de l'affection. « Je suis républicaine. Toute notre famille l'est. Nous sommes contre l'aide sociale, mais nous avons soutenu les mouvements en faveur des droits civiques. Je veux juste que vous sachiez quel genre de républicains nous sommes », avait-elle dit à Ifemelu à leur première rencontre, comme s'il s'agissait de quelque chose d'essentiel à régler une fois pour toutes. « Et voudriez-vous savoir quel genre de républicaine je suis ?» avait demandé Ifemelu. La mère de Kurt avait d'abord eu l'air surpris, puis son visage s'était éclairé d'un sourire hésitant. « Vous êtes drôle », avait-elle dit. Un jour, elle dit à Ifemelu, « Vous avez de très beaux cils. » Des paroles soudaines, inattendues, puis elle but tranquillement son Bellini, comme si elle n'avait pas entendu le « merci » étonné d'Ifemelu. Sur le trajet du retour en voiture à Baltimore, Ifemelu dit « Mais cils ? » Elle a dû se donner du mal pour trouver quoi complimenter. Kurt rit. Laura dit que ma mère n'aime pas les jolies femmes. Un week-end, Morgan vint les voir. Kimberly et Don voulaient emmener les enfants en Floride, mais Morgan avait refusé d'y aller. Kurt lui proposa donc de passer le week-end à Baltimore. Il avait prévu une sortie en bateau et Ifemelu s'était dit qu'il serait bon qu'il passe un peu de temps seul avec Morgan. « Tu ne viens pas, Ifemelu ?» demanda Morgan, l'air déçu. « Je croyais que nous y allions ensemble. » Le mot « ensemble » prononcé avec plus de chaleur qu'Ifemelu n'en avait jamais entendu de la part de Morgan. « Bien sûr que je viens, » dit-elle. Elle appliqua son mascara et son rouge à lèvres, sentant Morgan l'observer. « Viens ici, Morg, » dit-elle, et elle lui mit une touche de brillant sur les lèvres. « Presley ? Bien. Maintenant, pourquoi êtes-vous si jolie, Miss Morgan ?» Morgan rit. Sur la jetée, Ifemelu et Kurt marchèrent en tenant Morgan par la main. Morgan était heureuse qu'on lui tienne la main, et Ifemelu se représenta, comme elle le faisait parfois un bref instant, mariée à Kurt, vivant dans le confort, lui s'entendant avec sa famille et ses amis, et elle avec les siens, excepté avec sa mère. Il plaisantait au sujet du mariage. Depuis qu'elle lui avait décrit la cérémonie du prix de la mariée, que les Igbo accomplissaient avant l'offrande du vin de palme et le mariage à l'église, il disait en riant qu'il irait au Nigeria pour payer le prix de la mariée, se présenterait à sa maison ancestrale, prendrait place avec son père et ses oncles, et insisterait pour la voir gratuitement. Et elle plaisantait à son tour, imaginant qu'elle s'avançait vers l'autel d'une église en Virginie, au son de la marche nuptiale, tandis que la famille de Kurt, horrifiée, se demandait pourquoi la bonne portait la robe de la mariée. Ils étaient blottis sur le canapé, elle plongée dans un livre, lui regardant un match. Elle aimait le voir tellement immergé dans le jeu, les yeux plissés, le regard concentré. Pendant les annonces publicitaires, elle le taquina. Pourquoi le football américain n'avait-il pas de logique propre et se réduisait-il à des hommes trop lourds, se jetant les uns sur les autres? Et pourquoi les joueurs de baseball passaient-ils tant de temps à cracher jusqu'au moment où ils se mettaient à courir comme des dératés? Il rit et tenta d'expliquer une fois de plus la signification des home runs et des touchdowns, mais elle ne l'écouta pas, parce que comprendre signifierait qu'elle ne pourrait plus le taquiner, et elle reprit la lecture de son roman, prête à le taquiner de nouveau à la prochaine pub. Le canapé était moelleux. Elle rayonnait. À l'université, elle avait obtenu des points supplémentaires et amélioré sa moyenne. Derrière les hautes fenêtres du salon, l'Inner Harbor s'étendait à leurs pieds, l'eau miroitait, les lumières scintillaient. Une sensation de contentement la submergea. C'était ce que Kurt lui avait apporté, ce don du contentement, du bien-être. Avec quelle rapidité s'était-elle accoutumée à leur mode de vie, à son passeport tamponné de multiples visas, à l'attention du personnel de première classe dans les avions, aux draps soyeux dans les hôtels où ils descendaient, et aux petites choses qu'elle chapardait, les confitures du petit déjeuner, les flacons d'après-shampoing, les pantoufles, même les gants de toilette s'ils étaient particulièrement doux. Elle avait quitté son ancienne peau. Elle aimait presque l'hiver, le givre étincelant sur le toit des voitures, la riche chaleur des pulls en cachemire que Kurt lui offrait. Dans les magasins, il ne regardait pas le prix des choses. Il lui achetait des provisions et des manuels scolaires, lui envoyait des bons d'achat valables dans les grands magasins. Il lui avait demandé d'abandonner le babysitting. Ils passeraient plus de temps ensemble si elle n'avait pas à travailler tous les jours. Mais elle avait refusé. « Il faut que j'aie un emploi », avait-elle dit. Elle mettait de l'argent de côté, en envoyait davantage chez elle. Elle voulait que ses parents s'installent dans un nouvel appartement. Il y avait eu un vol à main armée dans l'immeuble voisin. « Quelque chose de plus grand dans un meilleur quartier », dit-elle. « Nous sommes bien ici », dit sa mère. « Ce n'est pas si mal. » Ils ont construit une nouvelle barrière dans la rue et interdit les okada après 6 heures du soir. Ainsi, nous sommes en sécurité.
Une barrière?
Oui, près du kiosque.
Quel kiosque?
Tu ne te souviens pas du kiosque? Demanda sa mère. Ifemelu resta muette pendant un moment. Un voile s'épia sur ses souvenirs. Elle n'arrivait pas à se rappeler le kiosque. Son père avait finalement trouvé du travail comme sous-directeur des ressources humaines dans une des nouvelles banques. Il avait acheté un téléphone portable. Il avait acheté des pneus neufs pour la voiture de la mère d'Ifemelu. Peu à peu, il reprenait ses monologues sur le Nigeria.
On ne peut pas dire qu'Obasanjo soit quelqu'un de bien, mais il faut concéder qu'il a fait certaines bonnes choses pour le pays. L'esprit d'entreprise est florissant, disait-il.
Cela paraissait étrange de les appeler directement, d'entendre le « Allô ?» de son père dès la deuxième sonnerie. Et quand il entendait sa voix, il élevait la sienne, criait presque, comme il le faisait toujours pour les communications internationales. Sa mère emportait le téléphone sur la véranda pour être sûre que les voisins l'entendent.
« Ifem, quel temps fait-il en Amérique ?»
Sa mère posait des questions d'un ton enjoué et acceptait des réponses du même style.
« Tout va bien pour toi ?»
Et Ifemelu n'avait d'autre choix que de répondre oui. Son père se souvenait des cours qu'elle avait mentionnés et demandait des détails. Elle choisissait ses mots, soucieuse de ne rien dire au sujet de Kurt. C'était plus facile de ne pas mentionner l'existence de Kurt.
Quelles sont tes prévisions en matière d'emploi ?
Demandait son père. Elle serait bientôt diplômée, son visa d'étudiante était prêt d'expirer.
On m'a attribué une conseillère d'orientation professionnelle. Et je vais la voir la semaine prochaine.
Tous les étudiants se voient attribuer à un conseiller d'orientation ?
Oui.
Son père poussa une exclamation, pleine de respect admiratif.
L'Amérique est un pays vraiment organisé. Et les opportunités d'emploi sont considérables là-bas.
Oui, beaucoup d'étudiants ont obtenu de bons jobs par leur intermédiaire, dit Ifemelu.
Ce n'était pas vrai, mais c'était ce que son père souhaitait entendre. Le bureau d'orientation professionnelle,
un endroit sans ventilation, des piles de dossiers délaissés entassés sur les bureaux, était réputé pour être plein de conseillers qui étudiaient les CV, vous demandaient d'en changer la police de caractère ou la présentation et vous proposaient des contacts périmés de gens qui ne vous rappelaient jamais. La première fois qu'elle s'y était rendue, la conseillère Ruth, une afro-américaine à la peau caramel, lui avait demandé « Que voulez-vous faire exactement ?»«
Je voudrais trouver un emploi. »
« Oui, mais de quelle sorte ?» avait demandé Ruth, légèrement incrédule. Ifemelu avait regardé son CV sur la table. «
J'ai un master en communication, donc quelque chose dans la communication, les médias. »«
Avez-vous une passion ? Un rêve ?»
Ifemelu avait secoué la tête.
Elle se sentait désarmée, elle n'avait aucune passion, ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire. Ses intérêts étaient imprécis et variés. La presse magazine, la mode, la politique, la télévision, aucun n'était affirmé. Elle avait parcouru le salon de l'emploi, où des étudiants engoncés dans leurs vêtements, l'air sérieux, s'efforçaient de ressembler à des adultes dignes d'obtenir un emploi véritable. Les recruteurs, qui eux-mêmes avaient quitté l'université depuis peu, des jeunes dépêchés pour attirer d'autres jeunes, lui parlèrent d'opportunités de développement, d'adéquation et d'avantages, mais devinrent évasifs quand ils se rendirent compte qu'elle n'était pas citoyenne américaine, qu'il devrait, s'il l'engageait, se perdre dans le tunnel obscur des documents d'immigration.
« J'aurais dû passer un diplôme d'ingénieur, ou quelque chose de ce genre, » dit-elle à Kurt. « Il y a foule de diplômés en communication. »
« Je connais des gens avec qui travaillait mon père. Il pourrait être utile, » dit Kurt. Et peu après, il lui dit qu'elle avait un entretien dans un bureau du centre de Baltimore, concernant un emploi dans les relations publiques.
« Tout ce que tu as à faire est de cartonner et le job est à toi, » dit-il. « Je connais aussi des gens dans une affaire plus importante, mais l'intérêt de celle-ci est qu'ils t'obtiendront un visa de travail et s'occuperont de ta demande de carte verte.
« Quoi ? Comment as-tu fait ?»
Il haussa les épaules. J'ai passé quelques coups de fil.
Kurt, vraiment, je ne sais pas comment te remercier.
J'ai quelques idées sur la question, dit-il heureux comme un gosse. C'était une bonne nouvelle, cependant elle se sentit gagnée par une certaine retenue. Wambui avait 3 boulots afin de réunir les $5,000 dont elle aurait besoin pour payer un Afro-Américain pour un mariage blanc. Mwambeki essayait désespérément de trouver une entreprise qui l'embaucherait avec son visa temporaire. Et elle, tout à coup, tel un ballon rose, légère comme l'air, était portée jusqu'au sommet, propulsée par des influences extérieures. Elle éprouva, au milieu de sa gratitude, un léger ressentiment. Kurt pouvait, en quelques coups de fil, réorganiser le monde et donner aux choses la place qu'il souhaitait leur voir occuper. Quand elle parla à Ruth de sa prochaine entrevue à Baltimore, celle-ci lui dit « Mon seul conseil, défaites vos tresses et défrisez vos cheveux. Personne n'en parle jamais, mais c'est important. Il faut que vous obteniez ce boulot. » Tante Uju avait dit quelque chose de similaire dans le passé, et Ifemelu en avait ri sur le moment. Maintenant, elle était assez avisée pour le prendre sérieusement.
« Merci, » dit-elle à Ruth.
Depuis son arrivée en Amérique, elle avait toujours tressé ses cheveux avec de longues extensions, toujours préoccupée par leur prix. Elle gardait chaque coiffure pendant 3 mois, voire 4, jusqu'à ce que la peau du crâne la démange trop et que les tresses poussent au milieu d'un duvet de cheveux. Défriser ses cheveux fut donc une nouvelle expérience. Elle défit ses tresses, prenant soin de ne pas frotter sa peau pour laisser intacte la saleté censée la protéger. Il y avait pléthore de défrisants disponibles, des boîtes dans le rayon aux coiffures ethniques des drugstores, des visages souriants de femmes noires avec des cheveux incroyablement lisses et brillants, des mots comme « végétal » et « aloès », prometteurs de douceur. Elle en acheta une de couleur verte. Dans sa salle de bain, elle étala soigneusement le gel protecteur sur son front à la naissance des cheveux avant d'appliquer la crème défrisante, une mèche après l'autre, ses doigts dans des gants en plastique. L'odeur lui rappela le laboratoire de chimie du lycée et elle força la fenêtre de la salle de bain qui restait souvent coincée.
Elle chronométra l'opération avec soin, rinçant le défrisant au bout de 20 minutes exactement. Mais ses cheveux restaient crépus, toujours aussi épais. Le défrisant n'avait pas pris. C'était le mot « prendre » qu'utilisa la coiffeuse de West Philadelphia. « Ma fille, vous avez besoin d'une bonne professionnelle, » dit-elle en appliquant un défrisant différent. « Les gens croient faire des économies en le faisant chez eux, mais ça ne marche pas. » Ifemelu sentit seulement une légère brûlure au début, mais quand la coiffeuse lui inclina la tête en arrière contre le bassin de plastique pour rincer le défrisant, elle eut l'impression que des aiguilles douloureuses lui jaillissaient du crâne, pénétrant dans tout son corps pour remonter ensuite à la tête.
« À peine une petite brûlure, » dit la coiffeuse.
« Mais regardez comme c'est joli. Waouh, ma fille, vous avez l'allure d'une blanche !» Ses cheveux retombaient au lieu de se dresser sur sa tête, lisses et lustrés, avec une raie de côté, s'incurvant délicatement de chaque côté de son menton. Son enthousiasme l'avait quittée. Elle ne se reconnaissait plus. Elle quitta le salon presque tristement. Quand la coiffeuse avait passé au fer les extrémités des mèches, l'odeur de brûlé, de la mort de quelque chose d'organique qui n'était pas destiné à mourir, lui avait laissé une sensation de deuil. Kurt sembla hésitant quand il la vit. « Est-ce que ça te plaît, chérie ? » demanda-t-il.
« Pas à toi, ce que je vois !»
dit-elle. Il ne dit rien. Il tendit la main pour lui caresser les cheveux, comme si le geste l'aiderait à aimer sa coiffure. Elle le repoussa.
« Aïe ! Attention, le défrisant m'a un peu brûlé. »
« Quoi ? » ?»«
Ce n'est pas grave, c'était la même chose au Nigeria. Regarde !»
Elle lui montra une cicatrice derrière l'oreille, une petite grosseur enflammée qui s'était formée après que tante Uju lui avait défrisé les cheveux avec un fer chaud quand elle était au lycée.
« Rabats ton oreille !» lui disait tante Uju, et Ifemelu tirait sur son oreille, crispée, retenant sa respiration, mourant de peur d'être brûlée à l'approche du fer chauffé au rouge sur le fourneau, mais excitée à la pensée d'avoir ensuite des cheveux lisses et souples. Et un jour, le fer la brûla. Elle avait légèrement bougé, la main de tante Uju aussi, et le fer l'avait à peine effleuré derrière l'oreille.
« Oh mon Dieu !» s'exclama Kurt, écarquillant les yeux. Il insista pour examiner délicatement son crâne et voir l'étendue de la brûlure. « Oh mon Dieu !» Son horreur l'inquiéta plus qu'elle ne l'aurait dû. Elle ne s'était jamais sentie aussi proche de lui qu'à ce moment, assise, immobile sur le lit, son visage enfoui dans sa chemise, humant le parfum de l'adoucissant, tandis qu'il écartait doucement ses cheveux défrisés.
« Pourquoi avais-tu besoin de faire ça ? Tes cheveux tressés étaient splendides. Et quand tu as défait tes tresses la dernière fois et que tu les as laissés libres, ils étaient encore plus beaux, épais et naturels.
Mes cheveux épais et naturels feraient leur effet si j'avais un entretien pour être chanteuse dans un orchestre de jazz. Mais il faut que j'aie l'air professionnel pour cet entretien. Et professionnel signifie avoir les cheveux raides. S'ils devaient être bouclés, il faudrait que ce soit des boucles de blanches, souples, ou au pire des anglaises, mais jamais des cheveux crépus.
C'est complètement con que tu sois obligée de faire ça.
Le soir, elle eut du mal à trouver une position confortable sur l'oreiller. Deux jours après, elle avait des croûtes sur la peau du crâne. Trois jours après, elle suppurait. Kurt voulait qu'elle aille voir un médecin, mais elle se moqua de lui. Elle cicatriserait, lui dit-elle. Et c'est ce qu'elles firent. Ensuite, après avoir passé les doigts dans le nez l'épreuve de l'entretien et que son interlocutrice lui eut serré la main en disant qu'elle correspondait merveilleusement au poste, elle se demanda si cette femme aurait eu la même réaction si elle était entrée dans son bureau auréolé de ses cheveux épais, crépus, de ce céleste halo afro. Elle ne dit pas à ses parents comment elle avait décroché ce job. Son père déclara « Je suis certain que tu vas faire des étincelles. L'Amérique offre toutes les opportunités de prospérer. Le Nigeria devrait la prendre pour modèle. » Et sa mère se mit à chanter quand Ifemelu annonça que dans quelques années, elle pourrait devenir citoyenne américaine.
Comprendre l'Amérique pour les Noirs non-américains. À quoi aspirent les WASP? Le professeur Hunk a un collègue professeur invité, un juif avec un accent prononcé de ces pays d'Europe
où la plupart des gens boivent un verre d'antisémitisme au petit-déjeuner. Donc le professeur Hunk parlait des droits civiques et le professeur juif dit « Les Noirs n'ont pas souffert comme les Juifs ». À quoi le professeur Hunk répond « Allons, sommes-nous aux Jeux olympiques de l'oppression ?» Le professeur juif n'était pas au courant de l'expression « mais Jeux olympiques de l'oppression » est celle qu'emploient les libéraux américains intelligents pour vous donner l'impression d'être stupide et vous obliger à la boucler. Mais en réalité, les Jeux olympiques de l'oppression se déroulent sous nos yeux. Les minorités raciales en Amérique, noirs, latinos, asiatiques et juifs, sont toutes couvertes de merde par les blancs, des merdes différentes, mais de la merde quand même. Chacune croit secrètement recevoir la pire. Non, il n'existe pas une ligue unie des opprimés. Cependant, tous les autres croient être supérieurs aux noirs parce que, eh bien, parce qu'ils ne sont pas noirs. Prenez Lily, par exemple, la femme qui faisait le ménage chez ma tante dans une ville de la Nouvelle-Angleterre. Peau de couleur café, cheveux noirs, parlant espagnol. Elle était hautaine. Elle manquait de respect, faisait mal le ménage, avait des exigences. Ma tante croyait que Lily n'aimait pas travailler pour des noirs. Avant de finir par la renvoyer, elle dit « Cette idiote, elle se prend pour une blanche ». Donc, être blanc est la situation à laquelle on aspire. Pas tout le monde, bien sûr. Commentateur, s'il vous plaît, inutile d'enfoncer des portes ouvertes. Mais de nombreuses minorités ont une attirance conflictuelle pour la blancheur WASP, ou plus précisément, pour les privilèges de la blancheur WASP. Ils n'aiment probablement pas vraiment la peau blanche, mais ils aiment certainement pouvoir entrer dans un magasin sans être suivis par un type de la sécurité. Bouffer du goy et embrouter aussi, comme dit le grand Philip Roth. Alors si tout le monde en Amérique aspire à être WASP, à quoi aspirent les WASP? Quelqu'un le sait-il ?